petit philosophe dans le vaste monde. Une émission proposée par Bernard Ribal. Bernard Ribal, essayiste, agrégé et docteur en philosophie.
Emmanuel Macron et le gouvernement ont décidé de reconnaître officiellement l'État palestinien le 23 septembre, donc il n'y a pas longtemps, lors de l'Assemblée générale de l'ONU, au grand dam d'Israël et des USA. C'est une initiative franco-saoudienne, donc liée à un grand pays arabe, suivie par d'autres États et précédée de peu par la Grande-Bretagne, le Canada et l'Australie. Cette initiative avait été précédée en juillet 2025 d'un vote très majoritaire à l'ONU réclamant la seule solution possible, l'existence de deux États, Israël et Palestine, dont l'ONU a depuis longtemps fixé les frontières. Sinon c'est la poursuite d'une guerre de 100 ans avec toutes ses horreurs. Depuis 1920, donc plus de 100 ans, juifs et arabes se disputent, hélas, le même territoire, avec chacun, hélas encore, quelque légitimité pour y prétendre, chacun d'entre eux. En 1920, ce territoire est sous mandat britannique, décidé par la SDN, ancêtre de l'ONU. Après la Deuxième Guerre mondiale, l'Angleterre abandonne son mandat pour le rendre à l'ONU. Les Juifs, sauvés des camps de la mort nazie, émigrent en grand nombre vers Israël. Les Palestiniens autochtones se sentent menacés. Et dès 1948, Israël proclame son indépendance, alors commence ouvertement la guerre. Le Moyen-Orient va s'enflammer. L'Égypte et la Jordanie prennent fait et cause pour la Palestine, mais Israël, par la guerre des six jours, les met en déroute en 1967. Beaucoup de Palestiniens émigrent dans un important exode. Contre les avis de l'ONU, Israël installe des colons pour prendre possession et cultiver des terres à Gaza et en Cisjordanie, région pourtant réservée à la Palestine. En 1973, les pays arabes limitrophes attaquent à nouveau Israël. C'est la guerre du Kippour, où l'armée israélienne contre-attaque jusqu'à 40 km de Damas, capitale de la Syrie. Espoir de paix quand même en 1979, où le président américain Carter réunit chez lui, à Camp David, les belligérants qui font la paix. L'Égypte reconnaît l'existence de l'État d'Israël, mais la guerre intérieure entre Juifs et Palestiniens reprend avec la première intifada, 1987-1993, où les enfants palestiniens harcèlent avec succès l'armée israélienne. Naît alors le tristement célèbre Hamas, qui va affronter ses frères palestiniens du Fatah, c'est-à-dire ceux qui jusqu'ici dirigeaient le peuple palestinien. C'est bien Yasser Arafat, le chef du Fatah, qui en 1993, à Oslo, en Norvège, va faire reconnaître l'autorité palestinienne par la communauté internationale. L'autorité palestinienne, mais pas la reconnaissance de l'État palestinien. C'est une demi-mesure. Tandis que cette autorité reconnaît le droit de l'État hébreu à exister. Mais à l'issue de la deuxième intifada, 2000-2005, le Hamas l'emporte sur le Fatah, c'est-à-dire l'emporte sur... ce sont les extrémistes, donc, qui l'emportent sur, j'allais dire les modérés, mais disons les militants un peu plus réfléchis. Et Israël, avec difficulté, va évacuer ses colons qui s'étaient installés dans la bande de Gaza. C'est une certaine victoire du Hamas, alliée aux islamistes du djihad. Hamas, en 2007, impose son régime militaire sur la bande de Gaza. En revanche, le gouvernement israélien encourage l'installation massive de colons juifs en Cisjordanie, fictivement administrés par ce qui reste du Fatah. Gaza est cerné par un blocus sévère et le 7 octobre 2023, eh bien, c'est le pire du pire. Le Hamas pénètre en Israël et massacre sauvagement, très sauvagement, la population civile juive. 1200 morts et 250 pris en otage. Depuis, la réplique israélienne sera de plus en plus violente, avec un acharnement odieux, y compris sur les populations civiles, jusqu'à organiser la famine dans la bande de Gaza. 50 000 Palestiniens sont tués. Ces 50 000 ne sont pas tous des Hamas. Il y en a des simples civils non engagés dans le Hamas, loin de là. Y sommes-nous pour quelque chose? Oui, bien sûr. Malheureusement, l'Occident, dont l'Europe et la France, commerce avec Israël et, par ailleurs, tente d'apporter une aide humanitaire à Gaza malgré des barrages israéliens. Mais en politique intérieure française, la complexité est maximale. Si je dénonce l'action terroriste cruelle du Hamas le 7 octobre, me voilà accusé d'islamophobie. Si je dénonce les massacres à l'aveugle de civils palestiniens par Israël, me voilà accusé d'antisémitisme. La commission spécialisée de l'ONU a même écrit que l'action d'Israël correspondait aux critères d'un génocide. Le premier ministre israélien est poursuivi pour crime de guerre et crime contre l'humanité par la Cour pénale internationale avec mandat d'arrêt. Qui va mettre les menottes à M. Netanyahou? Le gouvernement d'Israël se défend en disant que la guerre en Palestine n'a rien à voir avec la Shoah, qui fut un génocide, évidemment, contre les Juifs. Mais tous les génocides ne se ressemblent pas. Le génocide arménien de 1915 à 1923 ne ressemble pas aux chambres à gaz du génocide perpétré par les nazis plus tard. Et c'est pourtant bien un génocide. Sans entrer dans les détails sordides, un génocide, c'est l'élimination totale ou partielle d'un groupe ethnique, méthodiquement, mentalement et physiquement. Génocide ou pas, c'est l'abomination de la désolation, comme dit la Bible. Comment une génération qui a effectivement vécu le martyre peut-elle engendrer une génération qui commet de telles tueries, bombarde écoles et hôpitaux, laissant hommes, femmes et enfants mourir de faim dans les ruines de leur habitat. Noam Burzef, je ne suis pas sûr de prononcer comme il faut, Benzef, et Yaël Perlov écrivent dans Le Monde du 13 septembre 2025, je cite, « Israël, incapable de laver son âme du traumatisme de la Shoah et des horreurs faites aux Juifs d'Europe, inflige à son tour l'horreur à un autre peuple. » Ces deux intellectuels juifs d'Israël ne sont pas les seuls à s'interroger. Il y a en Israël une opposition à Netanyahou, mais il y a aussi, toujours en Israël, des sionistes dans son gouvernement, encore plus sionistes que Netanyahou. Mais si Israël dispose d'une telle armée, c'est que les USA le soutient à grands frais et parfois sous la pression de l'électorat juif d'Amérique. La tragédie séculaire se joue sur de petits territoires. La bande de Gaza n'est guère plus grande que la moyenne d'un département français. Et ça se joue sur des populations relativement restreintes. 2 millions d'habitants dans la bande de Gaza, avant, il y en a moins maintenant, avant les exodes et les tueries de 2025. Israël n'a que 7 à 8 millions d'habitants. Ces faibles quantités empoisonne pourtant tout le Moyen-Orient. Israël, qui laisse entendre posséder l'arme atomique, a bombardé avec l'aide des USA les installations de recherche atomique en Iran. Israël a bombardé la Syrie et le Liban pour y éradiquer le Hezbollah, allié du Hamas et de l'Iran. Israël vient de bombarder le Qatar, où se sont réfugiés des dirigeants du Hamas. Israël bombarde le Yémen, qui tente de l'agresser, etc. La France ne pouvait plus attendre. Il fallait rejoindre la grande majorité des États qui ont reconnu la Palestine et soutenir la finalité de la solution de deux États, Israël et Palestine, visée par l'ONU depuis 1947. Ça n'arrêtera pas la folie meurtrière d'Israël, mais ça condamne pour longtemps Israël à être au banc de la communauté internationale. À la complexité de cette guerre honteuse, certains en rajoutent en prétendant que notre reconnaissance de la Palestine est, tenez-vous bien, une victoire du Hamas. Eh bien, le Hamas, c'est vrai, il veut nier l'existence de l'État hébreu. Nous, comme bien d'autres, nous entendons nier l'existence du Hamas et libérer les Palestiniens de son emprise. Le désarmement du Hamas est d'ailleurs la condition que met la France pour ouvrir réellement une ambassade en Palestine.
C'était Petit philosophe dans le vaste monde, une émission de Bernard Ribal.